C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Parmi les sujets d'histoire qui marchent le mieux dans les films, les livres ou même ici à la radio, il y a bien entendu les récits d'aventures. Sans forcément impacter significativement l'histoire, l'histoire avec un grand I, il raconte néanmoins quelque chose de l'époque d'alors et cet appétit insatiable qu'a l'être humain pour l'inconnu. Attardons-nous aujourd'hui sur l'histoire de Jean-Baptiste Charcot, plus connu sous le nom de commandant Charcot, né en 1867 en région parisienne, devenu médecin, marin, officier de la marine militaire. Il se distingue pour ses aventures en zone froide, aussi bien en Arctique que l'Antarctique, au début du XXe siècle, avant de couler en Islande avec son bateau le 16 décembre 1936. Pour étudier avec nous les aventures du commandant Charcot, la belle équipe de l'Histoire avec un grand I. Bonjour Lauriane Chavez.
Bonjour.
Bonjour Bastien Arnaud.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors pour commencer cette émission, peut-être qu'on peut décrire de quelle famille est issu ce monsieur Charcot dans cette région parisienne riche en noblesse en tout genre à cette époque.
Alors si je peux me permettre, je vais juste commencer en faisant une petite rectification. Le commandant Charcot est mort le 16 effectivement, mais septembre et non décembre.
Ah, 16 septembre, en effet, désolé.
Avec les dates, Guillaume, parce que
c'est
toujours un peu compliqué. Effectivement, merci pour m'avoir repris. C'est effectivement le 16 septembre 1936.
C'est un métier, nous sommes là pour ça.
Donc, Jean-Baptiste Charcot, JBC pour les intimes, naît en 1867, d'une famille plutôt aisée, d'officier militaire. Sa mère était commandant, son père était sous-officier, et il avait un frère aussi, qui était joueur de hockey.
David Charcot.
David Charcot, bien connu parce qu'il a gagné 2-3 championnats. Qu'est-ce qui explique du coup que, étant né dans cette famille très citadine, on ait envie comme ça de parcourir le monde, et en particulier là où il fait moins 20 degrés, quoi.
Ah bah vous venez de le dire, hein, justement parce qu'on vient de la vie citadine. On veut toujours ce qu'on n'a pas, tout simplement. Donc... l'envie de voyager, elle vient d'un enfermement dans une condition aussi, parce qu'une famille aisée, c'est une zone de confort, hein, et comme tout enfant, et bien on a besoin de dépasser les limites de ses parents, tout simplement.
Donc c'est quelque chose qui le prend très jeune, cette envie d'ailleurs, et cette envie de partir.
Ça vient des livres aussi, tout à fait, des livres qu'il lit quand il est enfant. Il lit du Jules Verne, des récits de voyage dans des terres imaginaires, et il se prend à rêver. Et ses parents étant officiers, il y voit une opportunité de concilier l'approbation de ses parents et son rêve de voyage. Donc il décide de s'engager dans l'armée très jeune dans le but de voyager.
Mais n'oublions pas que c'est vrai qu'il lisait beaucoup, et d'ailleurs ses parents au tout début de sa vie pensaient qu'il était autiste.
C'est vrai.
Exact.
Très bien. Donc quelqu'un qui lit beaucoup très jeune et qui s'engage très tôt dans l'armée... À quel âge environ est-ce qu'il va vraiment passer le portail de l'armée du coin, je suppose, pour s'enrôler ?
Alors, c'est à peu près vers ses 13 ans. Vers 13 ans, il commence à passer le pas. Le premier pas, j'ai envie de dire, du portail du bâtiment de l'armée. Mais c'est vraiment à ses 15 ans qu'il commence vraiment à faire ses gardes, quoi.
Parce qu'il viendra tous les jours de ses 13 ans à ses 15 ans et se fera rejeter à chaque fois, n'ayant pas l'âge requis.
Exactement.
Ah oui, parce que à l'époque, sous les 15 ans, c'est pas possible.
Non, c'était 15 ans. Et du coup, tous les jours, entre son 13e anniversaire et son 15e anniversaire, il viendra, tentera de... Et puis...
C'est pas courant quand même de passer 2 ans de sa vie à venir tous les jours et se rejeter
non,
finalement.
C'est l'avantage d'être dans une famille aisée, hein, on a que ça à faire.
Ouais. On a que ça à faire.
Puis vous savez, le voyage, c'est pas qu'une destination. Hein. C'est aussi un trajet. Et le trajet, c'est peut-être 722 fois le chemin entre chez soi et le portail... de la base militaire d'à côté.
Ah, vous avez compté. Vous êtes formidable.
Non, j'ai approximé. Je pense que c'est pas réellement le bon chiffre.
Ah, je suis un peu déçu.
Moi aussi.
très bien. Comment sa famille réagit, son entourage, les voisins, de voir cet enfant de 13 ans, préadolescent, aller taper à la porte de l'armée tous les jours et revenir bredouille?
Alors, sa famille ne le savait pas à l'époque. Ah. Il n'y avait que les commandants du poste de garde qui, eux, le savaient parce qu'ils le voyaient arriver tous les jours, faire un pas dans la bâtisse et lui dire bah, « Non, Jean-Baptiste, tu n'as pas encore l'âge, tu ne peux pas rentrer. » Mais heureusement, eux ne le disaient pas à sa famille. Parce que si sa famille l'aurait su, il aurait demandé de changer de voie.
C'est pas des poucaves. Bah, quoique, ils étaient quand même très contents. Ils étaient quand même très contents à la fin de sa famille qu'il soit dans l'armée, puisque il suivait la voie de ses parents finalement.
Bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 13 et 15 ans, on a des tâches ménagères à faire. Et du coup, aller tous les jours au poste d'à côté pour voir si on peut rentrer et ne pas effectuer ses tâches, c'était un peu mal vu par la famille.
Finalement, c'est grâce à ça que son frère a fait une carrière sportive, parce qu'il a beaucoup confié ses tâches à son petit frère. Hein, naïvement, forcément, son petit frère a suivi et donc a développé une endurance incroyable, et c'est ce qui lui a permis de faire carrière dans le sport après. Donc finalement, les choses se sont bien goupillées.
Mais il a appris à manier un balai. Effectivement, David Charcot a appris à manier un balai très jeune, et donc c'était tout naturel de s'orienter vers une canne de hockey ensuite.
Exact.
Et donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est quand même étonnant qu'en 2 ans, ce soit resté complètement secret, cette affaire.
Mais oui, en fait, sa grande excuse, c'était de dire qu'il sortait saluer les poules. Parce qu'il avait des poules qui habitaient dans le quartier, et donc il disait tous les jours « je sors saluer les poules ». Alors effectivement, ça contribuait au fait que ses parents pensaient qu'il était autiste.
C'est vrai qu'en termes d'excuses, il n'a pas forcément trouvé à l'époque le plus pertinent. Enfin, aujourd'hui, j'imagine qu'un adolescent aurait un peu plus d'imagination que ça. Et à la fois, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, donc aller saluer les poules, bon, c'était... ses parents ne s'inquiétaient pas, je pense. J'y étais pas, mais a priori, il allait prendre le grand air. Bon, c'est pas pire qu'être sur son téléphone aujourd'hui, hein,
mais oui,
si je peux me permettre.
Que rester enfermé à lire un bouquin, qui était l'équivalent d'être sur son téléphone à l'époque.
Ouais. Mmh, ouais.
C'est ça.
Et d'ailleurs, il a toujours été très mauvais menteur, hein, tout au long de sa vie, Jean-Baptiste Charcot.
Oui.
Vraiment un très 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 mauvais menteur qui trouvait des excuses à chaque fois ridicules. On en reparlera.
Comment ça se passe du coup à 15 ans? Il y a eu du coup le jour fatidique où il a mis un pied, il a pu en mettre un deuxième parce qu'on lui a dit oui, tu peux rentrer, tu à 15 ans. Qu'est-ce qui a changé pour lui dans sa vie à ce moment-là?
C'était bien pire que ce qu'il imaginait. C'est que c'était bien plus difficile parce que lui, finalement, pendant ces 2 ans, il n'a rien fait d'autre que faire des allers-retours. Donc, pour le coup, il fallait quand même une forme physique. Hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais enfin, son frère était plus adapté à l'époque parce que lui était bien plus en forme, du coup, à gérer les tâches ménagères de JB. Mais un coup qu'il y était, il fallait bien assurer parce que ça faisait 2 ans qu'il demandait quand même. Donc, il a tenu sa parole. Il a dit qu'il serait volontaire et qu'il serait motivé. Et il était motivé.
Mais oui, il pensait qu'on allait les mettre sur un bateau et qu'il allait tout de suite voyager le monde, mais non, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il faut faire sa place, hein, entre guillemets. Et c'est là où il trouve une petite pirouette, c'est qu'il décide de devenir médecin. C'était bien plus facile à l'époque de devenir médecin. Il suffisait d'acheter un diplôme, pas besoin d'avoir de réelles compétences ou de faire des études.
Ses parents avaient les moyens.
Ses parents avaient les moyens.
Bien, très riche.
Donc il a acheté un diplôme de médecine et il est devenu médecin pour l'armée. Et là, plus besoin d'une condition physique extrême, il pouvait être envoyé en mission sur un bateau et soigner ses comparses.
À ce moment-là, il ravale un peu sa fierté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même 2 ans qu'il y va tous les jours. Il se rend compte que c'est pas forcément pour lui tout de suite. Du coup, il a un côté un peu presque hautain de dire « Oula, je vais tenter autre chose pour arriver à mes fins.
Mm-hmm. » Mais c'est pas évident. Alors après, il a quand même, il voyage, il fait ce qu'il voulait faire, tout en étant médecin. Mais il n'y a pas de problème pendant la première année. Il a beaucoup de chance. On va pas se mentir. Pendant la première année, pas un rhume, quoi. Tout se passe très bien.
Personne n'a besoin de lui, en fait.
Personne n'a besoin de lui. Donc, très facile d'être médecin quand on n'a pas de patient. Et arrive le moment où, alors là, le pire du pire, c'est pas un rhume, on passe directement à la jambe cassée, l'os qui sort, un gros accident sur un pont.
C'était un amiral.
Et c'était un amiral, donc il fallait le sauver à tout prix. Bon, alors là, il s'est retrouvé face à sa plus grande peur, qu'on sait maintenant, sa peur du sang, ce qui n'est pas du tout pratique pour un médecin.
Donc là, il tente une excuse, mais on le rappelle, il est très mauvais en mensonge. Je suis désolé, je ne peux pas opérer l'amiral. J'ai dit au commandant en bas que j'allais pêcher avec lui. Bon, alors c'est ridicule, on peut pas pêcher dans le bas d'un bateau, enfin dans la cale d'un bateau, il y a pas d'eau. Il y a même pas de pêcheurs à bord, donc vraiment les gens le regardent interloqué et il comprend qu'il va devoir se confronter à sa peur du sang et là il fait quelque chose de génial.
Alors justement, avant de venir sur cette action géniale, petite pause musicale. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. MCs like a pound of bacon, burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on, pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps are acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook when my DJ revolves it. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother. Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après Vanilla Ice et leur titre Ice Ice Baby. On s'est quitté en introduisant en suspense cet événement marquant dans la vie de médecin de ce monsieur Charcot, où il se retrouve face à un amiral à la jambe complètement fracassée, déchiquetée. Et là, il va faire quelque chose d'extraordinaire face à ça pour vaincre sa peur du sang.
Quelque chose de brillant, quelque chose de brillant. Il pratique le déni. Il regarde la jambe, il regarde tour à tour tous les militaires autour de lui et il dit « Cet homme-là n'a pas une jambe cassée. C'est une maladie inconnue jusqu'alors. »
Donc, pour lui, donc il fait un espèce de faux diagnostic, on dirait, aujourd'hui.
Enfin, on n'est pas tous d'accord là-dessus, parce que moi, j'estime qu'il a eu une intuition fulgurante. D'autres disent que c'est, on appelle ça le déni. Là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord. Non. Moi, je pense que c'était un génie qui s'ignorait. Mais voilà.
Alors, un génie qui s'ignorait, mais est-ce qu'on sait dans quel état était la jambe réellement ? Est-ce qu'on a des...
La jambe était vraiment fracassée. Hein. Pour moi, c'était clairement du bluff. Mais à l'époque, ça a marché. Parce qu'il avait son diplôme. Il avait son diplôme de médecin. Et en fait, les gens l'ont cru. Les gens l'ont cru et ont dit, bon bah, ok, c'est vraiment une maladie. Mais du coup, que faire ?
Mais c'est là où je trouve qu'il y a quand même un truc, moi, qui me questionne. C'est que oui, la jambe était fracassée, donc il s'en est occupé avec sa peur du sang comme il pouvait. Il a recousu rapidement. Et la jambe s'est atrophiée petit à petit. Et finalement, c'est exactement ce qu'il avait prévu. La jambe ne va pas s'en sortir. Donc il avait raison quand même.
Bon, alors voilà. Causalité, corrélation. Alors, toujours est-il qu'il a été génial, parce que l'amiral a survécu à une maladie inconnue. Donc pour tout le monde, c'était un génie. Et c'est devenu ensuite sa technique, finalement, pour cacher le fait qu'il n'était pas réellement médecin. C'était de chaque fois annoncer que c'était cette même maladie inconnue, à laquelle on a fini par donner le nom de maladie de Charcot, tant il était le seul à pouvoir la déceler.
C'est vrai.
Il était assez intelligent là-dessus, parce que du coup, les gens venaient le voir en lui amenant des malades, en lui demandant si c'était la fameuse maladie ou non. Et des fois, il répondait positivement et des fois négativement. Ce qui a permis aussi de déceler d'autres maladies qui n'étaient pas des maladies de Charcot. Et c'est là où il a été plutôt bon.
Il était plutôt bon parce que ça aurait été, bien entendu, trop simple de toujours répondre qu'il y avait là une maladie inconnue. La même à chaque fois, je suppose que son entourage l'aurait remarqué.
Disons que de réputation, à force de parler de la maladie de Charcot, c'est vrai que ça a été un phénomène à l'époque. Et donc, les gens ont commencé à réunir les listes des symptômes qui étaient observés à chaque fois et donc de faire des corrélations entre les différents cas qu'il avait eus. Et c'est devenu cette liste de symptômes qui fait qu'aujourd'hui, c'est la maladie de Charcot avec cette liste qui ne bouge plus, où il y a une seule maladie de Charcot, alors qu'il y en avait finalement plusieurs à l'époque. C'est selon effectivement les cas sur lesquels il tombait, une vingtaine de genres de maladies de Charcot, de variantes. Et puis aujourd'hui, c'est une seule maladie. Grâce à lui, malgré lui, ça reste encore en débat ouvert.
Ça reste encore en débat. Et qu'est-ce qui explique dans le fil de l'histoire que, on va dire, sa carrière de médecin, avec ce côté plein de déni et cette découverte fortuite, on va dire, de cette nouvelle maladie, l'amène jusqu'en Arctique et en Antarctique.
Alors là, c'est très simple. L'histoire ne le dit peu, mais on peut le deviner dans les textes. C'est la présence du docteur Wagram. Alors, il faut savoir, le docteur Wagram, à l'époque, est très réputé. Il est à la fois anglais et français, et il s'intéresse de près à la maladie de Charcot, et commence à réfuter et donner des arguments contre la maladie de Charcot. Suite à quelques écrits du docteur Wagram, un autre Jean-Baptiste prend peur. Et du coup se dit, c'est peut-être le moment de partir.
Oui, parce que d'ailleurs, c'est rigolo, vous avez fait un lapsus en disant « article » au lieu d'article. Mais c'est exactement ça. C'était un article qu'il a écrit contre le commandant Charcot. Et Jean-Baptiste s'est trouvé... très embêté parce que finalement sa carrière de médecin ne fonctionnant pas sur des études ni vraiment d'expérience à la base, fonctionnait surtout sur une réputation. Donc si on tuait cette réputation, sa carrière était terminée et son rêve de voyage aussi, parce que c'est, n'oublions pas, être médecin, ça lui permettait de voyager.
Être médecin, ça lui permettait de voyager, donc il va tout faire pour sécuriser ses voyages. Et ceux qui restent, en fait, toujours présents, parce que peu demandés, ce sont les voyages vers le grand froid. Si
exactement, c'est un nouveau défi qui se présente à lui. Et on connaît son obstination. Quand il a décidé quelque chose, il ne lâche pas l'affaire à l'époque.
Et donc, sous couvert, il met également ça sous couvert d'aller chercher un remède à la maladie de Charcot. Donc Wagram prétend qu'elle est fausse, mais ça lui apporte du crédit de chercher un remède, parce que ça lui attire la sympathie du public. Et donc, il part explorer les eaux froides des pôles.
Alors, qu'est-ce qu'il fait en tant que médecin ou faux médecin comme type d'exploration dans une zone essentiellement constituée d'icebergs et de pingouins ?
Mais c'est la recherche du grand froid, c'est la préservation. Parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que tout part du sang, cette fameuse peur du sang, le sang qui circule, le sang qui sort, qui coule. Lui, ce qu'il essaye de faire, c'est arrêter tout ça. C'est arrêter la propagation de la maladie, donc la maladie de Charcot. Et donc, il entend des théories comme quoi le froid, de la même façon que ça peut préserver la viande, peut préserver la santé. Et donc, il se dit, allons là où il fait le plus froid. et oui, se retrouve face à cette étendue de mer glacée, hein, littéralement, d'iceberg, mais ne lâche pas l'affaire pour autant et va commencer à explorer la glace pour voir s'il y trouve le Graal, finalement.
Et oui, le Graal, parce qu'à l'époque... À l'époque, il y a une croyance sur la Terre. C'est pour ça qu'on appelle ça les pôles, d'ailleurs. C'est parce qu'on ne disait pas les pôles, on disait les pôles. Parce qu'on pensait qu'il y avait des gens qui vivaient, dont le prénom était Paul, qui vivaient au nord, tout au pôle nord et au pôle sud. Et donc, c'est ce Graal qu'ils cherchaient, c'est cette espèce de vie éternelle de la croyance des pôles qui vivent là éternellement dans un milieu aussi hostile grâce au grand froid.
Voilà, alors, que je comprenne bien. Passe alors. À travers les problèmes de santé.
On parle de deux pôles ou de plusieurs pôles, certains sont au nord, certains sont au sud.
Non, il y a un pôle nord et un pôle sud.
Il y a un pôle nord et un pôle sud.
Donc, il y a deux pôles.
Donc on est à la recherche de deux individus,
oui.
Un au nord, un au sud.
Ouais, c'est une croyance très répandue à l'époque, donc on sait aujourd'hui qu'elle est bien évidemment fausse, hein, mais à l'époque c'est très, très répandu.
Très bien, merci. Donc on a le commandant Charcot qui part à la recherche de ces deux pôles. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il s'y prend?
Ils sont nombreux, hein. Alors ils ont trois bateaux composés de 50 personnes dans l'équipage par bateau. Donc à l'époque c'est vraiment une grosse flotte pour cette mission en fait intitulée tout simplement la recherche des deux pôles. Et du coup ils commencent par le nord. Ils passent par l'Islande, puis s'embarquent dans la mer pour aller voir la banquise. Et puis comme tout le monde le sait, ils reviennent bredouille.
Ils reviennent bredouille, donc ils n'ont pas trouvé.
Sur la première expédition dans le Nord, ils reviennent bredouille.
Et alors n'oublions pas que c'est long hein, à l'époque, les voyages, donc c'est 2 ans. Hein.
Deux ans.
Il est abonné aux 2 ans, hein, Jean-Paul, Jean-Baptiste. Il est abonné, pardon, il est abonné aux 2 ans, hein, Jean-Baptiste, effectivement. 2 ans d'expédition, il revient bredouille. Alors là, autant vous dire qu'il était attendu au tournant et Wagram va le défoncer.
Ça se passe très mal d'un point de vue réputation après ces 2 ans. Et comment a
réagi aussi... C'est un lynchage public.
Ah, c'est un lynchage public, oui. Carrément.
Un semi-lynchage public, parce qu'on le rappelle, il y a 2 missions. Il y a la mission du Nord pour le premier pôle. Et heureusement, il arrive à trouver l'argumentation de la deuxième mission pour aller au Sud.
Mais il divise. Il divise littéralement.
Donc ça divise.
50% de la population. Exactement. Qui ne le croit plus, qui ne le suit plus. Et puis une autre qui garde un petit peu comme des fanatiques, qui garde espoir en lui.
Mmh. Selon les sondages, juste un mot sur les sondages de l'époque qui étaient plus précis que les sondages actuels. Sur ces 50%, c'était catégorique.
Enfin, catégorique. Ouais. 50-50.
C'était à l'époque on auditait toute la population.
Oui.
Mais il y avait moins de gens, donc c'était plus facile aussi.
Oui, tout à fait. C'était plus simple.
Il y avait des métiers dédiés à ça, vraiment, pour aller voir chaque personne.
Sondeur.
Très bien. Donc 50% clair et net. Ça tombait bien qu'on soit un chiffre pair à l'époque d'ailleurs. Comment réagit son équipage face à cette déconvenue? On se doute, 3 bateaux, 50 personnes par bateau, c'est une sacrée aventure. On part, il fait moins 25, c'est froid. Est-ce que l'équipage le suit tout de même pour l'expédition au pôle sud?
Alors déjà, pas la partie qui est décédée, parce que tout le monde n'a pas survécu, hein, effectivement. Donc il revient déjà avec 1/3 des gens. Ce qui n'est pas beaucoup, donc comme quoi le froid, ça, là il se rend compte que ça ne maintient peut-être pas la santé, ça peut aussi tuer des gens, donc tout est subtil, hein. C'est de la science après, c'est précis. Et donc il revient, et puis de la même façon que ça divise, il y a ceux qui croient en lui et ceux qui n'y croient plus, donc il en repère un autre tiers, si les calculs sont bons, il reste 1/3, et donc il repart avec ce tiers-là vers le sud, avec juste une seule flotte hein, de 34 personnes, ce qui est très peu pour une si grosse expédition, parce qu'on l'a vu qu'on perd des gens sur le chemin.
Et puis quelque chose qu'on avait sous-estimé à l'époque, c'est que l'Antarctique, c'est très grand.
Oui.
Et donc, ils partent en traîneau explorer l'Antarctique, et évidemment, ils ne trouvent pas grand-chose, si ce n'est quelques pingouins, ours polaires. Il faut une locale, il n'y a pas d'âmes qui vivent.
Non, et puis de moins en moins, parce que la faune agressive, hein, donc attaque de pingouins, etc.
Donc c'est une expédition qui se passe comme au nord, de manière pas très bien. Comment va réagir le commandant Charcot face à cette expédition sud là qui est mal barrée?
Il va utiliser encore une technique qu'il juge très intelligente, mais c'est un très mauvais menteur. Il va choisir un membre de son équipage, il va lui dire « tu es Paul ». et il va essayer de faire passer ça auprès du grand public, lui dire de faire passer un des membres de son équipage avec qui il est parti pour le pôle et revenir dire au grand public j'ai trouvé le pôle sud, c'est lui, regardez comme il est en bonne santé, il va nous livrer ses secrets, et donc voilà, il monte un coup avec ce membre d'équipage.
Alors il joue tout là-dessus, parce que ce Paul quand même n'est pas si facile à convaincre, donc il lui donne une certaine somme, en fait il met ses dernières économies dans ce plan douteux, et effectivement présente Paul comme une trouvaille, mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que les scientifiques de l'époque veulent tester le Paul, voir pourquoi il est en si bonne santé, comment il a survécu dans cet endroit, enfin ça devient assez glaçant par la suite pour cette personne qui a été riche, mais dans une vie assez courte finalement.
Et oui, JBC, très mauvais menteur, il n'avait pas pensé, il n'est pas accoutumé au mensonge, ou en tout cas pas bon dans cette discipline, complètement à côté de la plaque. Et effectivement, l'homme qui l'a payé mourra dans d'autres souffrances, comme l'a rappelé Lauriane. Et là, c'est la déconvenue pour Charcot. Vagram s'en donne à cœur joie, plus personne ne le croit, on passe de 50% à 1%. Une grande chute dans les sondages.
Grande chute, chute oui. Dans les sondages. Comment est-ce qu'il réagit, le commandant ?
Eh bien, pour moi, c'est là où tout son talent s'exprime. C'est là où sa principale qualité apparaît. Et c'est comme... Il prend vraiment le dessus sur cette histoire. Et c'est grâce à l'écriture. Il faut savoir que, durant toutes ses missions, il écrit. Il écrit beaucoup parce qu'il n'a que ça à faire. Il y a personne, il n'arrive pas à soigner les malades sur le bateau. Du coup, il écrit beaucoup. Et c'est un très mauvais menteur, mais il écrit bien. Et il écrit des histoires. Des histoires de ce qui se passe sur le bateau, ce qui se passe en Antarctique, sur la banquise, etc. Et il arrive à un peu enjoliver ce qui se passe. Il écrit par exemple la rencontre avec Paul au pôle Sud. Il raconte tout ça.
Et d'ailleurs, il écrit la troisième personne. Il n'écrit jamais à la première
personne, contrairement au
carnet de bord de l'époque. Donc, il raconte sa propre histoire comme s'il était extérieur à cette histoire, ce qui est en train d'écrire lui-même, du coup, sa propre légende.
Il écrit sa propre légende en faisant, quoi.
Il écrit sa légende et il arrive à l'éditer, à le publier et à le faire lire par tout le peuple. Et c'est là où il réussit. Alors là, les sondages ne le disent pas trop, on a perdu un peu la trace. Mais pour moi, le peuple reprend espoir et reprend confiance en Jean-Baptiste.
Oui, parce que c'est vraiment, il faut imaginer que les livres, hein, c'est la télé de l'époque. Hein, donc tout ce qui est écrit existe et a trait de vérité. Donc là, la croyance populaire repart de plus belle. Et Vagram, d'ailleurs, finit très mal parce qu'il est décrit comme le méchant, hein, de l'histoire. Et il n'est pas du tout apprécié du grand public. Sa carrière se terminera d'ailleurs très mal. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler vraiment de cette personne.
Oui, et puis il a fini en prison aussi pour meurtre.
Ah oui, c'est vrai, ça a joué aussi, ça.
Effectivement, donc, oui. On est là devant une sorte de manipulation de l'opinion publique, finalement, si on le regarde avec des yeux modernes. Est-ce que certains de ces ouvrages à ce commandant Charcot ont traversé le temps et sont encore lus de nos jours ? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ?
Oui, moi je pense à Bonjour les poules, qui est l'œuvre qui raconte le début de sa vie, dans lequel il raconte tous les voyages qu'il a fait entre chez lui et l'entrée de la base.
Oui. Alors il y a La Grande Vadrouille qui a été, c'est terrible parce que maintenant il y a un film qui est très connu, qui a le même titre, donc c'est passé complètement à l'as, mais très très bien La Grande Vadrouille. Hein,
un bon livre.
Oui, une écriture presque lyrique, je dirais.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié Paul ou Paul.
Oui.
Très bon livre aussi, plutôt en style roman, donc c'était un peu moins biographique, mais un peu plus romancé.
Et, un poil manichéen à mes yeux. Mais,
poil manichéen, je vous entends, mais très appréciable.
Très bien, donc c'est vrai, visiblement un écrivain qui a traversé les siècles. Un dernier mot peut-être pour résumer la vie de ce commandant Charcot avant de terminer cet épisode. Comment ça se termine pour lui ?
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, il était en bateau et il décède le 16 décembre.
Septembre.
Mais c'est Guillaume qui m'a rejoint
en erreur. Mais faire attention, désolé. C'est pour ça qu'on essaie de faire très attention avec les dates parce que ça va très vite après le bouche à oreille. Il suffit qu'une personne se trompe et c'est la population entière qui est complètement perdue.
Moi, de base, j'ai du mal avec les dates, alors à chaque fois.
Oui, c'est vrai.
16 septembre 1936.
Exact.
Il était en train d'écrire un nouveau bouquin. Elle, Islande, ça dit quoi? Donc, pour parler un peu de ce qu'il y avait sur les côtes.
C'est terrible, parce que je m'étais juré de ne pas le lire. J'ai quand même pas pu m'empêcher, mais ça s'arrête au milieu. C'est dans un suspense terrible.
Ah
on
oui,
a très envie de savoir la fin.
C'est horrible. Horrible.
C'est très, très, très frustrant. Moi, je vous le conseille quand même, parce que l'écriture est terriblement moderne. Mais
ça parle de quoi, parce que je ne l'ai pas lu?
Elle, Islande, ça dit quoi?
Oui.
Ça parle principalement de son rapport à l'étranger. C'est là qu'on découvre qu'il était très raciste. Et bon, on comprend que la limite de sa réputation, de toute façon, serait arrivée à son terme, hein, avec ou sans sa mort.
Donc finalement, ça laisse planer le doute sur ce personnage du commandant Charcot. On s'arrêtera là, merci, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au commandant Charcot. Vous retrouvez l'émission en podcast sur Print.net, toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.